Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Marc. Texte de la liturgie catholique pour la fête du Saint-Sacrement. Le premier jour de la semaine des Azymes, où l'on tue l'agneau pascal, ses disciples lui disent
« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?»
Il envoie deux de ses disciples en leur disant
« Allez à la ville. Quelqu'un portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le. Et là où il entrera, dites au maître de maison, « Le maître fait dire, où est ma salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Lui-même vous montrera à l'étage une grande chambre garnie toute prête. Faites-y pour nous les préparatifs. »
Les disciples sortent et vont à la ville et trouvent comme il leur a dit. Et ils font les préparatifs pour la Pâque. Alors qu'ils mangent, il prend du pain, dit la bénédiction, le rompt et le leur donne en disant
« Prenez, ceci est mon corps. »
Prenant une coupe, il rend grâce et la leur donne, et ils boivent tous. Il leur dit
« Ceci est mon sang de l'Alliance répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. »
Ayant chanté l'hymne, ils partent vers le mont des Oliviers.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, c'est-à-dire la fête de l'Eucharistie. Ce texte nous est familier. Il nous faut peut-être lui redonner vie en le situant dans le contexte juif de l'époque et nous demander si nos façons de célébrer aujourd'hui l'Eucharistie sont bien fidèles à ce que Jésus a fait.
Eh bien, rappelons d'abord où se situe cet épisode dans le récit de Marc. Nous sommes au chapitre 14, et ce chapitre s'ouvre par ces lignes. Deux jours après, c'était la Pâque et la semaine des Azymes. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Pas en pleine fête, de peur qu'il n'y ait des troubles dans le peuple. Jésus séjourne à Béthanie, un village situé à 3 kilomètres de Jérusalem. C'est le village de Marthe, de Marie et de leur frère Lazare, celui que Jésus a ramené de la mort. Il se trouve dans la maison d'un certain Simon, surnommé le lépreux. Peut-être ce Simon a-t-il été lui aussi guéri par Jésus. Au cours d'un repas, voilà qu'une femme va verser un parfum précieux sur la tête de Jésus, un parfum qui est aussi très coûteux, l'équivalent du salaire de 300 jours de travail. Ce qui va provoquer l'indignation de quelques-uns. On aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Avec beaucoup de délicatesse envers cette femme, Jésus va accepter son parfum comme un geste de respect envers lui-même, geste que l'on pose envers les morts lors de l'ensevelissement. « Elle a embaumé mon cœur pour la sépulture, dit-il. » Et on trouve peut-être ici un écho des discussions qui avaient lieu à l'époque pour savoir ce qui était le plus méritoire auprès de Dieu, faire l'aumône aux pauvres ou ensevelir les morts, un geste qui donnait, selon les croyances de certains, accès à la résurrection. Mais l'important ici est que Jésus parle avec certitude de sa mort prochaine. Ses jours sont comptés et c'est un fait que tous peuvent prévoir. Le groupe des disciples va donc vivre des heures dangereuses et tragiques et c'est dans ce cadre que va se dérouler le dernier repas sacré que Jésus prend avec eux. Jésus va y annoncer qu'il sait que l'un d'eux le trahit, l'un de vous va me livrer, quelqu'un qui mange avec moi. Et il ajoutera que Pierre va le renier aujourd'hui même, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il ne faut donc pour nous jamais oublier l'importance de ce contexte. Trahison, reniement, décision des chefs juifs de tuer Jésus. C'est tout cela qui nous permet de donner leur sens au geste que Jésus va poser.
Où veux-tu que nous allions préparer pour que tu manges la Pâque?
Eh bien, dressons le décor dans lequel Jésus va nous livrer son mémorial. Les récits de Marc, de Luc et de Matthieu placent le repas au soir de la fête de Pâques. Pour les Juifs et pour les chrétiens, toute fête commence la veille, au coucher du soleil. La fête de la Pâque débute une semaine qu'on appelle celle des azimes, c'est-à-dire des pains sans levure, sans levain. Cela traduit le mot juif « matzah », comme on appelle les pains sans levure. On préparait ces pains la veille de la Pâque, en mémoire du départ des Hébreux de l'Égypte sous la conduite de Moïse. La Pâque est en effet la plus grande fête juive, et elle se célèbre au soir du 14 Nisan, c'est-à-dire le jour qui précède la pleine lune, celle qui vient aussitôt après l'équinoxe de printemps. La fête va durer 8 jours. Au soir du 14, chaque famille immole un jeune agneau au temple, on en recueille le sang afin d'en marquer le cadrage de la porte de la maison pour rappeler ainsi le geste qui avait sauvé les familles juives avant leur sortie de l'Égypte. Puis, on va faire rôtir l'agneau qu'on mange avec des salades d'herbes amères. Au temps de Jésus, ce repas pascal se célébrait de préférence dans la chambre haute, au deuxième étage, une salle qu'on ornait de tapis pour la circonstance. On débutait le repas par une coupe de vin qu'on faisait circuler après avoir prononcé une bénédiction. Puis, on passait une bassine d'eau afin que tous puissent se laver les mains. Le président rompait alors le pain et en offrait un morceau à chaque convive. C'est alors que le plus jeune des participants, des convives, posait des questions sur le sens de la fête. Et c'est le président du repas qui y répondait. L'agneau, lui, il rappelle la protection de Dieu lors de la sortie d'Égypte. Les pains sans levain sont en effet ceux que les Hébreux avaient emportés lors de leur départ, car les pains sans levain, sans levure, se conservent plus longtemps. Enfin, les herbes amères sont celles que l'on trouve dans le désert et elles viennent rappeler les souffrances de l'Exode. Mais il ne s'agit pas seulement au cours de ce repas d'évoquer le passé. Il faut en vivre le sens, comme le dit ce texte juif de la Mishnah.
De génération en génération, c'est une dette de se voir comme soi-même sorti d'Égypte. Ce ne sont pas seulement nos pères qu'il sauva, le Saint béni soit-il, mais nous-mêmes, en eux, il nous sauva.
En effet, rappeler les souvenirs du passé, cela n'a pas de valeur si cela ne permet pas de mieux vivre ce qu'on a présentement à vivre. Le souvenir ravive la fidélité, car il fait revivre l'amour qui a été la force des gestes posés autrefois. Le souvenir ne porte donc pas sur le détail de l'événement passé, mais sur le sens que cet événement a eu et le sens qu'il aura pour toujours. Ainsi, on ne garde pas en mémoire d'abord les détails de la sortie d'Égypte, mais on garde dans la mémoire du cœur l'assurance que Dieu a été le libérateur de son peuple et qu'il le sera tout au long de l'histoire. Tout au long de ce repas, il y aura 4 coupes de vin. Et lors de la 3e, on prononce cette bénédiction.
Que le Dieu de miséricorde nous trouve dignes de l'époque messianique et de la vie éternelle du monde qui vient. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne.
On pourra rapprocher cette bénédiction de la phrase de Jésus, « Je vous le dis, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Ainsi, le repas de Pâques tourne les convives vers le monde éternel, celui qui vient, bien sûr, sans cesse dans notre aujourd'hui, dans la mesure où nous vivons dans la communion du Seigneur. Un jour viendra où notre monde terrestre sera définitivement celui de Dieu. Ce sera le temps de la victoire définitive du Messie. Jésus semblerait dire à ses disciples qu'il va entrer dans ce monde par sa mort. Le repas, lui, va s'achever par le chant des psaumes. Les psaumes 113 à 118, on les appelle le Hallel, car le psaume 113 commence par Alléluia. Après la récitation du Hallel, Jésus et les siens vont partir pour le mont des Oliviers. Cette colline se dresse à moins d'un kilomètre des murs de la ville. Au temps de Jésus, elle était recouverte d'une épaisse forêt d'oliviers, ce qui était propice pour trouver un lieu où se cacher. Jésus et les siens craignent en effet les soldats du temple qui pourraient profiter de la nuit pour venir arrêter le maître loin des foules de la fête.
Peut-on connaître précisément le jour exact du dernier repas?
Ouais, c'est pas facile. Les récits de Matthieu, de Marc et de Luc nous disent que ce dernier repas est le repas de la Pâque. Marc le répète plusieurs fois.
Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Le maître fait dire, où est ma salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et ils font les préparatifs pour la Pâque.
Mais il semble difficile d'imaginer que Jésus soit condamné et mis à mort le jour même de la Pâque, parce que c'était un jour de repos, comme pour le Shabbat. D'autre part, le récit évangélique de Jean indique que Jésus sera condamné et mis en croix la veille de la Pâque, et que ce sera un vendredi, puisque cette année-là, la Pâque tombe un samedi. Il sera mis en croix à l'heure où, au temple, l'on immole les agneaux pour la fête. L'exégète Annie Jaubert a proposé une explication pour concilier les différences de date de ces récits. On a en fait découvert, à Qumran, un calendrier liturgique qui était différent du calendrier juif officiel. Ce calendrier était solaire et comportait 364 jours par an. La date de Pâques était fixe et le repas se célébrait un mardi soir. De plus, dans le livre « La Didascalie », un ouvrage du début des années 200, on trouve ce texte.
Après avoir mangé la Pâque, le mardi soir, nous allâmes à la montagne des Oliviers, où ils prirent notre Seigneur Jésus.
On peut joindre à ces arguments celui des jours de jeûne chez les premiers chrétiens en les comparant avec les jours de jeûne chez les Juifs. Les Juifs jeûnaient le lundi et le jeudi. Et le même texte de la Didascalie ajoute « Chrétiens, vous jeûnerez le mercredi parce que c'est le mercredi qu'ils m'arrêtèrent. » Et vous jeûnerez le vendredi parce qu'en ce jour-là, ils m'ont crucifié. Jésus aurait donc suivi un calendrier semblable à celui des Esséniens. Cette hypothèse, d'ailleurs, donnerait aussi un laps de temps plus grand pour situer tous les événements qui vont se dérouler entre le dernier repas et la mise en croix, l'arrestation, le procès devant le Sanhédrin, la parution devant Pilate et devant Hérode. Ajoutons aussi qu'il était interdit de juger quelqu'un la nuit, et qu'on demandait un minimum de 24 heures entre la sentence et son exécution. Malgré tout cela, cette explication n'a pas convaincu tous les spécialistes. Quoi qu'il en soit, le dernier repas de Jésus a eu comme sens, comme signification, la signification de la Pâque, c'est-à-dire qu'il s'inscrit comme la commémoration du salut, le renouvellement de l'acte libérateur de Dieu. Et il va devenir le renouvellement de l'alliance entre Dieu et les humains.
Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne.
C'est donc la volonté formelle de Jésus de donner à sa mort un sens de libération. Peut-être faut-il rappeler l'importance des repas religieux au temps de Jésus. Dans certaines communautés juives de l'époque du Christ, les communautés qu'on appelait celles de l'attente messianique, dont la communauté de Qumran est un bon exemple, cette liturgie du repas sacré en était arrivée à prendre la place et la signification des sacrifices qu'on célébrait au temple, c'est en dire l'importance. Ces repas religieux ont un sens très fort de communion, communion avec Dieu et communion entre les convives. Communion avec Dieu d'abord, eh bien, signalons ce que disait le rabbi Siméon.
Si trois hommes mangeant à la même table s'entretiennent de la Torah, c'est comme s'ils mangeaient à la table du Seigneur Dieu.
Ceux qui partagent la parole de Dieu rendent Dieu lui-même présent parmi eux. Et Jésus reprendra cette parole.
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.
N'est-ce pas dans le même sens qu'il va rompre et donner le pain. En disant « Ceci est mon corps », Jésus signifie « Je suis présent au milieu de vous ». Et cette présence est réalisée par la mendication de sa parole comme nourriture de vie éternelle. Dans le récit évangélique de Jean, les réflexions qui prolongent le grand repas du pain multiplié vont dans le même sens.
« Quiconque s'est mis à l'écoute du Père et à son école vient à moi. Je suis le pain de vie. »
Déjà, la sagesse de Dieu dans la Bible appelait chaque croyant à se nourrir d'elle comme on se nourrit de pain et de vin. Écoutons ces deux textes du Siracide et des Proverbes.
« Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous. Venez, mangez de mon pain, buvez du vin que j'ai préparé. »
Ainsi, dans cette communion de table avec le Maître, la parole de Jésus, sa sagesse, son esprit vont réaliser l'union intime du Christ avec chaque convive, avec chacun et chacune de ceux qui se mettent à son école. Communion avec Dieu, avec le Christ, mais aussi communion entre les convives eux-mêmes. Cela en effet fait partie de la culture de tout l'Orient, qu'un repas pris en commun établit une communauté de table entre les convives. Et cette communion s'exprime dans le pain partagé. Nous avons aussi, d'ailleurs, dans notre culture occidentale, des gestes signifiants qui sont semblables, boire ensemble le verre de l'amitié, par exemple. Nous appelons également les convives des compagnons, des copains, et on sait que ces mots sont formés du mot « pain » et de « co », qui est une particule latine qui veut dire « avec ». Le compagnon est celui avec qui on partage le pain. En Orient, c'est un véritable sacrilège que de rompre la communion de table, car celui avec qui on partage le pain doit être un ami et un ami pour toujours. Et c'est pourquoi la trahison de Judas est tellement tragique, car Judas va rompre l'amitié avec celui dont il partage le pain. Eh bien, face au rejet dont il est l'objet, l'attitude profonde de Jésus va s'exprimer aussi à travers le repas. Ce pain et ce vin, qui signifiaient sa parole de sagesse nourrissante et unifiante, vont prendre désormais le sens de sa vie livrée et de son sang versé. Face à la trahison, face à l'abandon de ses disciples, face au chef qui le rejette, Jésus n'opposera aucune résistance violente. Il va s'exposer, se donner, se livrer. Il donne toute sa vie par amour, dans l'espoir que la force de son amour pourra vaincre la haine de ses ennemis. Il va partager son pain avec Judas pour lui signifier qu'il pourra toujours compter sur son pardon. Il va laver les pieds de ceux qui vont l'abandonner pour déjà leur manifester qu'il demeurera toujours leur ami. Voilà la réalité la plus réelle du pain et de la coupe. Jésus donne sa vie pour ceux qu'il aime. Et ce don devient une réalité de communion dans le cœur de ceux qui l'accueillent. Il ne faut donc pas séparer le pain rompu et la coupe. Ils expriment tous deux la même réalité, celle du don que Jésus fait de lui-même, du don de sa vie. Voici mon corps, voici mon sang. Dans la Bible, le mot « corps » désigne la totalité de la personne en tant qu'elle est en relation avec les autres. Le mot grec « soma » traduirait donc l'hébreu « bassar » qui se traduit normalement par « chair ». On ne parle pas ici, bien sûr, de chair au sens de chair humaine. Il y a une expression juive qui dit « je suis chair et sang » pour dire « toute la personne », comme nous avons en français l'expression « je suis là corps et âme », pour dire qu'on est présent avec tout son être. Citons aussi l'exégète Jérémias.
Dans l'ancien hébreu, l'expression « la chair et le sang » désigne les deux parties du corps, surtout de l'animal sacrificiel, qui seront séparées lorsqu'il meurt.
Dans ce geste du pain partagé et de la coupe, celui qui est reçu, celui qui est accueilli, c'est Jésus, mais Jésus qui livre sa vie pour renouer l'amitié par-delà la rupture. Il parle du sang de l'Alliance. C'est l'Alliance entre Dieu et la multitude humaine qui sera éternellement nouvelle, car cette Alliance sera toujours renouvelée dans la personne de Jésus.
faites ceci en mémoire de moi. »
Dans le récit évangélique de Luc et dans la lettre de Paul aux Corinthiens, qui décrit le dernier repas, Jésus, après avoir rompu le pain et donné la coupe, ajoute « Faites ceci en mémoire de moi ». Cette invitation est dans la droite ligne du repas pascal, ou du repas pascal juif, où l'on invite chaque convive à vivre comme étant lui-même sorti d'Égypte, c'est-à-dire comme appelé à se libérer pour entrer dans l'amitié de Dieu. Jésus nous invite à nous libérer du mal et de la haine par le pardon, par le don d'amour de tout notre être, corps et âme. Un des 12, Pierre, va en quelque sorte mimer notre pauvre réponse à cette invitation de Jésus.
Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? »
Jésus lui dit, « Où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. »
Pierre lui dit, « Pourquoi ne puis-je te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. »
Jésus répond, « Tu donneras ta vie pour moi ? Amen, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Faire mémoire de Jésus, c'est vouloir donner notre vie comme lui, par lui et avec lui. Malheureusement, tout au long de notre vie, nous ferons, comme Pierre, l'expérience de renier cette invitation, au moins par 3 fois. Mais l'exemple de Pierre nous dit aussi que nous pouvons suivre Jésus sur ce chemin parce que toujours il nous offrira son amour et son pardon. Comme pour Pierre, Jésus nous lavera les pieds dans un geste de tendresse affectueuse. Si je ne te lave pas, tu ne seras pas en communion avec moi.
Pourquoi rejouer aujourd'hui le repas du Seigneur ?
Bien, dans les fouilles de la maison d'Oura Europos, qui a été une synagogue puis est devenue une église chrétienne à la fin du 1er siècle, on a trouvé un papyrus qui donne une prière qui était récitée lors du repas du Seigneur.
Pour ce qui est de l'Eucharistie, remerciez ainsi sur le pain rompu. Nous te remercions, ô notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as accordées par Jésus. Après avoir été rassasiés, remerciez ainsi. Nous te remercions, ô Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter en nos cœurs, pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as accordées par Jésus. Tu as donné aux humains la nourriture et la boisson, mais tu nous as gratifiés d'une nourriture et d'une boisson spirituelle et de la vie éternelle par Jésus.
À travers ce texte, on voit bien que se nourrir du pain et du vin de Jésus, c'est grandir dans sa connaissance et se nourrir spirituellement et ainsi pouvoir vivre comme lui d'éternité. Et c'est pourquoi il ne peut pas y avoir de repas du Seigneur sans qu'on se nourrisse de sa parole. L'homélie, aujourd'hui, qui suit l'Évangile, doit nous interpréter la pensée de Jésus. Mais plus heureux encore sont ceux qui peuvent célébrer dans un petit groupe dont la dimension va permettre à chacune et chacun des participants de l'Eucharistie de partager sa propre compréhension de l'Évangile, de dire comment cette parole de Jésus rejoint son vécu quotidien en venant l'éclairer et lui donner sens. Voilà donc le premier rôle de l'Eucharistie, nous faire grandir dans la connaissance de Jésus en nous faisant communier à sa parole. Mais poursuivons encore ce texte de la Didaché.
Comme ce pain rompu, autrefois dispersé sur les collines, a été recueilli de manière à ne plus faire qu'un, rassemble ainsi ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Rassemble des 80 d'Église que tu as sanctifiées dans le royaume que tu lui as préparé.
Ainsi, après la communion au Christ, le deuxième rôle du repas du Seigneur est de faire l'unité des convives entre eux, comme le souligne Paul dans la première lettre aux Corinthiens.
Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique.
Cette unité n'est pas une unité artificielle, ni indépendante de la volonté des participants. L'unité, hélas, parfois se brise par notre péché. Mais le partage du pain et de la coupe doit sans cesse nous conduire au pardon. Voici mon sang de l'Alliance versé pour le pardon, comme le dit le texte de Matthieu. Et c'est encore ce que souligne le texte de la Didaché.
Lors du rassemblement pour le repas du Seigneur, on ne peut rompre le pain et remercier qu'après avoir confessé ses fautes. Quiconque a un différend avec son compagnon ne se joindra pas à nous avant de s'être réconcilié.
Il est aussi une autre forme de réconciliation que le repas du Seigneur suscite. C'est le partage des biens avec ceux qui sont démunis. C'est déjà ce que faisaient les Juifs à la synagogue, ce que feront donc les premières communautés chrétiennes, avoir souci des veuves et des orphelins. Pour s'occuper de la juste répartition des offrandes envers ceux qui en ont besoin, on adjoindra d'ailleurs des diacres aux apôtres. Au IIe siècle, Justin témoigne de cette même pratique.
Ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner, donnent. Chacun ce qu'il veut et selon son gré. Ce qu'on recueille ainsi est porté à celui qui préside et il secourt les orphelins et les veuves et ceux qui sont dans la misère à cause des maladies. Irénée de Lyon rappelle aussi avec force ce sens du partage. Ne pas venir au secours des besoins d'autrui, c'est renier l'agapé du Seigneur.
Le repas du Seigneur avait d'ailleurs pris ce beau mot d'agapé, qui est le mot grec pour dire l'amour de bonté, l'amour gratuit. Eh bien, ce partage avec les pauvres est à l'origine de notre collecte que nous appelons souvent la quête. Mais malheureusement, le sens de celle-ci est quelque peu caché, dans la mesure où le produit de la quête sert davantage à l'entretien des bâtiments ou au salaire des permanents, agents de pastoral, qu'au partage avec les démunis. Oui, voilà donc quels doivent être aujourd'hui les fruits de ce repas du Seigneur. Communion au Christ Jésus en nous nourrissant de sa parole et communion entre tous les convives dans la solidarité. Ces fruits, ils sont signifiés par les gestes et les gestes réalisent les fruits au sens qu'ils les rendent réels parce qu'ils deviennent des gestes qui nous parlent et qui peuvent nous transformer intérieurement. Heureux donc ceux qui peuvent célébrer l'Eucharistie dans des gestes qui vraiment signifient le repas. Un repas de pain par l'unique pain rompu que l'on partage, un repas de parole par le dialogue autour de l'Évangile afin de dire ainsi notre engagement à partager le destin de Jésus.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Vous pouvez aussi vous abonner pour 3 mois, 6 mois ou 1 an au feuillet de pain sur la table ou aux cassettes. Téléphonez-nous, nous vous donnons les tarifs.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.